quand on n'a plus un poil de destin, plus un radis. Tous les soirs avant de s'endormir, on se fait un petit tir, c'est gagnant. On a 8 femmes comme les vizirs, qu'on les seins comme des cerfs-volants. On se voit à la proue d'un navire, comme un enfant, comme un enfant. Même dans une vie triste à mourir, et avec un cœur d'enterrement, tous les soirs avant de s'endormir, on se fait un petit tir, c'est gagnant. Avec tout ce qu'on pourrait s'offrir, c'est reposant, c'est reposant.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature défleurie, faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes au vieux calvaire, sur les fossés, sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, par milliers sur les champs de France, où dorment des morts d'avant-hier, tournoyez, n'est-ce pas l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir. M'a perdu dans le soir charmé, laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir la défaite sans avenir.
De la ville, loin du cirque incessant et loin des courses folles, de ces files sans fin, des autos immobiles, de ces bourses qui flambent sous l'envolée du pétrole. Pardonnez-moi, braves gens, moi je veux partir là-haut, partir là-haut, me laisser porter par le vent, le sentir sur ma peau. Je m'envole. Oh non, 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 non. Je m'en fous, je m'envole. Planer à mille lieues, comme un enfant de bohème, dans mon petit coin de ciel bleu, auprès des gens que j'aime. Défier les grands vautours et fendre les nuages, devenir à mon tour un de ces oiseaux de passage. En bas j'ai le mal de la terre. Moi je veux rester là.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4. Il est temps de retrouver l'émission de Alexandrine, Idéaux et Débats.
Nous s'agit à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Mitieu.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et Débats du jour qui commence avec au programme deux ouvrages. Le premier s'intitule En garde, il est paru chez Flammarion et il est d'Amélie Cordonnier. Et le second, il est de Franck Courtès qu'on a déjà reçu sur cette antenne. Il s'intitule À pied d'œuvre et il paraît chez Gallimard. Voilà pour le programme de cette émission. On retrouve tout de suite Amélie Cordonnier donc pour En garde aux éditions Flammarion. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et Débats, avec le plaisir de recevoir aujourd'hui Amélie Cordonnier pour un roman qui moi m'a profondément touchée. Ce roman s'intitule En garde, il est paru chez Flammarion et vous dites Amélie Cordonnier dans le prologue de ce livre que ce n'est pas de l'autofiction, c'est de la vivisection. Et je trouve que votre terme est extrêmement bien choisi parce que vous décrivez dans En garde une expérience qui vous est arrivée, enfin une aventure de vie absolument terrible, glaçante, qu'on va découvrir donc dans ces pages. Et j'imagine que, comme vous le dites, cette écriture a dû être difficile.
Bonjour, merci beaucoup d'avoir de m'inviter à votre émission. Oui, Jeanne. J'écris dans ce prologue, on pourrait presque dire sur la page de garde, parce que ça arrive assez rapidement dans le roman, et beaucoup de choses sont en garde dans ce roman, que ce ne sera pas de l'autofiction, mais de la vivisection. Il ne s'agissait pas pour moi de raconter ma vie dans ce roman, même s'il part d'un choc qui a fait vaciller ma vie, à savoir que j'ai été dénoncée au sortir du premier confinement par un appel anonyme passé au 119 et soupçonnée du jour au lendemain de maltraitance sur mes enfants, qui avaient à l'époque mon fils 14 ans et ma fille 7 ans. Injustement accusée, je dois préciser tout de suite, on est une famille normale, si tant est que la normalité existe. Nous avons réussi, mon mari et moi, à ne pas divorcer. Nous sommes à peu près heureux, pour ne pas dire tout à fait, bien sûr. Nous rions, nous crions, nous nous aimons, nous nous engueulons.
La vie.
Et voilà, c'est pour ça que je voulais dire une famille normale. Et donc, je suis partie de ce choc sur lequel on reviendra peut-être pour imaginer ce roman. Je dis que c'est de la vivisection parce que, pour moi, comme je dis, il ne s'agissait pas de raconter ma vie. Parfois, on peut avoir besoin de revenir sur ce qui nous est arrivé, d'écrire pour comprendre. Moi, ce n'était pas le cas. 3 ans avaient paru, mon précédent roman aussi, pas ce soir. Le temps avait passé, il s'agissait surtout pour moi d'essayer de disséquer ce qui m'était arrivé, en plusieurs parties d'ailleurs, puisque le roman en compte 4. Et j'avais envie d'écrire un thriller domestique sur lequel plane l'ombre de 1984. Mmh. Essayer un petit peu d'interroger la question de la surveillance dans notre société.
Oui, alors c'est tout à fait ça, la question de la surveillance, la parano qui s'ensuit. Mais ce qu'on peut préciser pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le livre et qui vont découvrir donc ce roman En garde d'Amélie Cordonnier paru chez Flammarion, c'est que tout commence par une lettre comme on en reçoit et qui pourrait être un canular parce qu'elle est tellement de piètre qualité, elle est bourrée de fautes, il y a une erreur sur les noms, il y a une erreur sur l'adresse. C'est un peu comme c'est un peu comme ces mails un peu bidons qu'on reçoit, soi-disant de la préfecture de police, parce qu'on a été pris en tant que visionnage de pédopornographie ou n'importe quoi, tous ces spams, toutes ces arnaques. Et un jour, comme ça, vous recevez un courrier.
Oui, je reçois un courrier qui comporte des erreurs, comme vous l'avez très justement indiqué. Jusque même, j'ai beau avoir changé, bien sûr, le prénom de mes enfants dans la partie. Première partie du roman, ils comportaient dans la vraie vie aussi une anomalie sur leur prénom, sur l'adresse. Et j'écris que je crois qu'on me mène en bateau. Et c'est vrai qu'il y a même un bateau, un voilier qui sert de logo à la mairie de Paris. Donc, j'imagine que je vogue sur ce voilier. Et puis, en fait, non, pas du tout. Une deuxième lettre arrive. Et puis ensuite, je suis bien obligée de contacter la protection de l'enfance, qui, comme il m'est demandé dans ce courrier, qui m'explique que je serai attendue avec mes enfants, que mes enfants seront entendus séparément. Ça, c'était un élément très important qui m'a longtemps hantée et tracassée, et que donc j'étais attendue à ce rendez-vous. Et c'est vrai que on le raconte comme ça, mais le projet, en fait, avec ce livre, pour moi, ce roman, qui donc, je le redis, n'est ni un récit, ni un témoignage, mais bien un roman, c'était d'essayer de rendre compte de la peur, de la sidération qui avait été la mienne, et puis de la honte aussi et de la culpabilité, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que même lorsque on sait qu'on a pas maltraité ses enfants, j'ai éprouvé une très très grande honte, j'ai eu très très peur, il y avait énormément de questions qui tournaient dans ma tête les semaines qui précédaient le rendez-vous chez les assistantes sociales, et puis c'était assez terrible. En fait, on était donc en juin 2020, mon deuxième roman, Un loup quelque part, venait de vivre sa vie de nouveau en librairie puisqu'il avait paru 4 jours avant la fermeture des librairies lors du premier confinement. Je me réjouissais qu'Emmanuel Macron les décrète aussi importants les librairies que les magasins de bricolage. Ce loup va vivre sa vie et voilà que d'un seul coup, alors même que dans ce roman je mets en scène une mère qui perd pied et qui est à la limite de la maltraitance, voilà qu'en fait j'ai l'impression que c'est la fiction qui vient percuter ma vie à moi. Et j'ai tout à coup peur, en fait, que les livres que j'ai pu écrire, les romans, même si ce sont des romans, puissent servir de pièce à conviction contre moi, puisque peut-être même était-ce encore plus risqué. Dans mon premier roman, Tranché, qui avait paru en août 2018, juste avant que le mouvement MeToo n'éclate, j'avais raconté l'histoire d'une famille ravagée par la violence verbale. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer, au fond?
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne,
y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'empête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au doux sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Alors là où je me permets de revenir un petit peu en arrière, Amélie Cordonnier, c'est que à la lecture de ce premier courrier, vous apprenez donc que vous avez rendez-vous avec les services sociaux, mais vous n'apprenez rien d'autre. Et vous avez tendance à ne pas parler de cette lettre parce que justement, elle est tellement incroyable que ça ne peut être qu'un gag. Et puis, il y en a une deuxième qui arrive à la bonne adresse cette fois, avec une correction un peu sur les prénoms, mais c'est toujours pas tout à fait ça. Mais vous savez toujours pas pourquoi vous êtes convoqué. Et c'est ça qui est intéressant aussi par rapport à j'allais dire, à surveiller et punir, c'est que vous êtes mis en toute la famille est mise en accusation, sous les projecteurs, mais à aucun moment vous n'avez la possibilité de savoir ce qu'il en est vraiment. Alors la réaction, c'est bien sûr de téléphoner pour avoir des infos, et on sait ce que ça donne. On tombe dans un système complètement kafkaïen, c'est-à-dire qu'on appelle et on rappelle et on réappelle et de toute façon, on n'arrive à joindre personne, ou quand on a quelqu'un, et bien les informations sont tellement, j'allais dire, dans un langage si particulier qu'on n'y comprend pas plus que ça. Et c'est ça aussi qu'en garde met en évidence, c'est le fait qu'on a l'impression qu'il y a deux univers parallèles qui se côtoient et qu'il est impossible d'y accéder vraiment.
Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai découvert lorsque j'ai été dénoncée et qui m'a paru absolument aberrant et intéressant du point de vue littéraire, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire quelque chose, parce qu'au fond, j'aurais jamais pensé écrire sur ce qui m'était arrivé, c'est qu'en fait, aujourd'hui encore, en 2023 aujourd'hui, mais quand ça m'était arrivé à l'époque, en 2020, n'importe qui, chacun chacune, peut tout à fait dénoncer son voisin. Du jour au lendemain, il suffit de passer un simple coup de fil, qui plus est anonyme, au 119, de dire que vous avez entendu des bruits ou des cris chez votre voisin, que vous faites du souci pour lui, pour que tout un chacun puisse se retrouver, comme je l'ai été, soupçonné du jour au lendemain de maltraitance. En fait, entendre suffit à faire foi, à faire accuser, aucune preuve n'est demandée, ni même l'identité de la personne qui vous dénonce. Et ça, ça m'a paru absolument aberrant. On sait quand même ce que la dénonciation peut rappeler de plus sombre dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça assez incroyable qu'aujourd'hui encore, on en soit là. Et l'autre chose qui m'a semblé absolument terrible, c'est que, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il était absolument impossible pour moi de prouver que j'aimais mes enfants. Et à partir, en fait, de ces deux vertiges, je me suis dit que j'allais essayer de réfléchir à un roman qui interroge, en fait, le problème, le principe, la question de la surveillance, comme je disais, dans notre société. En fait, en garde, c'est exactement ce à quoi vous faites référence, ces deux univers parallèles et qui ne se rencontrent pas, qui même ne parlent pas le même langage. Il y a 1984 qui plane comme ça sur le roman comme un fil rouge. Je me suis amusée à cacher certaines citations, à réécrire même certaines scènes dans le roman. Et puis, peut-être qu'il faut que je dise que lorsque j'écrivais, en fait, je suis tombée sur un article du journal Le Monde. C'était même avant d'écrire. C'est même cet article qui m'a aidé à constituer mon roman, un article du journal Le Monde qui raconte que depuis 2016, l'État chinois envoie chez les Ouïghours des agents missionnés par l'État qui sont chargés de s'assurer que ces familles musulmanes et turcophones du Xinjiang n'opposent aucune résistance à leur sinisation forcée. Et ces agents vont remonter leurs suspicions s'ils en ont et vont jusqu'à faire des choses absolument incroyables, vont jusqu'à s'installer dans les familles, jusqu'à dormir chez eux. Je me suis demandé ce qu'il deviendrait si cela advenait chez nous un jour, puisque notre société scanne déjà le moindre de nos gestes, surveille tout un chacun avec des caméras qui peuvent être allumées en permanence. J'ai trouvé dans mes recherches qu'il existait même des drones si petits que j'ai imaginé qu'ils pouvaient passer à travers une serrure. Donc finalement, En garde peut se lire un petit peu comme une dystopie. J'ai essayé en quelque sorte d'imaginer ce qu'il adviendrait dans notre démocratie, si l'intimité de chacun était surveillée, comme c'est le cas dans les régimes totalitaires.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'est-ce qui relève de l'intime encore dans notre société ? Voilà. Qu'est-ce qui nous appartient en propre ? Qu'est-ce qui est inaccessible ? Et j'allais dire, cette zone blanche sur le territoire, eh ben, elle est de plus en plus restreinte dans notre univers. Notre part cachée et secrète, comme vous l'évoquez, se réduit comme peau de chagrin, à tel point que, concrètement, c'est ce que vous évoquez, ça commence par... par, j'allais dire, l'espionnage, mais c'est presque de cet ordre-là, c'est des voisins. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui peut traverser l'esprit de quelqu'un pour qu'à un moment donné, cette personne prenne son téléphone, compose un numéro et aille dénoncer les gens qui le côtoient au quotidien ? Vous évoquiez la période sombre de l'histoire, mais cette période sombre de l'histoire, elle est toujours là, comme vous le dites. La délation, c'est quand même un art extrêmement français. La question qui se pose derrière, c'est la délation existe et a toujours existé, le corbeau, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cette délation est prise en compte, qu'on apporte une véracité à ses paroles et qu'on lance la machine? Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très mystérieux, parce que des appels disant que des enfants ont pleuré pendant le Covid, pendant le confinement, il y a dû y en avoir un certain nombre. Qu'est-ce qui fait qu'on déclenche une enquête sociale? Parce que concrètement, des travailleurs sociaux, il n'y en a pas tant que ça, et il faut vraiment quelque chose de très sérieux pour déclencher la mise en branle administrative. Donc, c'est toute une série de questionnements que vous avez et auxquels il n'y a pas de réponse.
Non, il n'y a pas de réponse. Alors après, je voudrais quand même préciser que ce n'est pas du tout un livre à charge contre la protection de l'enfance, ni même contre le 119, et que comme je l'ai noté très clairement dans mon roman, je salue tout à fait leur travail, et d'ailleurs je l'avais dit même lorsque ça m'était arrivé, enfin, j'en croyais pas mes yeux. Mais si vous voulez, moi ce qui m'intéressait, effectivement, vous avez prononcé le mot d'absurde, le mot kafkaïen, c'est vrai que moi ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de raconter l'histoire cauchemardesque d'une famille. Qu'est-ce qu'il adviendrait si tout à coup, vous l'avez dit tout à l'heure, l'intimité, normalement, c'est cette part d'existence sur laquelle ni l'État, ni la société, ni même la médecine ne devrait exercer son autorité. Donc, qu'est-ce qu'il adviendrait si tout à coup, notre intimité était comme ça placé sous contrainte. Tandis que j'écrivais, je me suis souvenue d'un mémoire de philosophie que j'avais, alors que j'étais fort jeune, que j'avais écrit, qui portait sur le problème de la transparence dans la démocratie représentative. Vous faisiez tout à l'heure allusion à Michel Foucault. C'est vrai que du coup, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque « Surveiller et punir », qu'à l'époque, j'avais très rigoureusement lu, mais dont je ne me souvenais bien sûr plus si bien. Et j'ai relu les passages que Michel Foucault consacre à la prison. Et il y a un passage très intéressant dans lequel il s'intéresse au panoptique de Bentham. Ouais. Le panoptique de Bentham, c'est une grande tour centrale placée au milieu de la prison et qui permet en fait aux gardiens de surveiller les détenus sans jamais être vu d'eux. Alors moi, au fond, comme ce qui m'intéresse en fait depuis mon premier roman tranché, j'en parlais tout à l'heure, depuis 2018, c'est ce qui se passe, je dis toujours, dans l'intimité, dans la maison chauffée, une fois qu'on a fermé la porte. Donc je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait si j'importais en fait ce dispositif pénitentiaire au cœur de la famille, si d'un seul coup, on plaçait au cœur de la famille un œil qui pourrait rappeler celui de Big Brother de 1984, mais aussi celui d'Hitchcock, puisque j'ai placé Hitchcock sous le signe, puisque je place en garde sous le signe d'Hitchcock, dont j'ai vu et revu les films au moment d'écrire ce livre, et notamment Psychose, que je cite en exergue du roman, et on se souvient chacun et chacune si on a vu le film de cette scène iconique lors de laquelle Norman Bates, qui est le vicelard propriétaire du motel où s'arrête Janet Leigh, la regarde à travers l'œil. Et on a comme ça, moi j'ai gardé en moi vraiment incrusté les styles Hitchcock film en gros plan. Donc qu'est-ce qu'il adviendrait au fond, voilà, si nous aussi on était de la sorte espionnés à travers le Judas en permanence.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent, qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse foutre la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que vous avez évoqué la médecine et ça me renvoie au serment d'Hippocrate et à une phrase du serment d'Hippocrate qui dit « Admis au sein des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe ».
Ah, mais voilà, c'est parfait, je ne la connaissais pas, merci, je me la confiais.
Voilà, donc, et c'est tout à fait ça. Et là, justement, les yeux viennent pour voir ce qui se passe. Et ça va, c'est tout le sujet de En Garde, c'est-à-dire que, bien sûr, il va y avoir ce premier rendez-vous avec cette audition de vous, du mari, des enfants qui vont être pris à part. Ce que j'aimerais évoquer, Amélie Cordonnier, par rapport à En Garde, donc ce roman paru chez Flammarion, c'est aussi la dimension temporelle très particulière de cette histoire. Parce que il y a le temps jusqu'à ce premier rendez-vous qui a lieu juste au mois de juin, juste avant l'été. Et puis après, il y a l'été, l'impression que tout est fini, et puis l'affaire reprend. Et donc, on a en permanence un aller-retour entre les temps d'attente, les temps où on subit, les temps d'espoir que ça soit fini, les temps... on perçoit presque physiquement le temps qui passe et qui a une texture différente suivant les différents épisodes.
Ah ben, ça me fait bien plaisir que vous disiez ça, parce que c'est ce que je voulais essayer de faire sans réussir à y parvenir. C'était vraiment créer cette tension. Je disais tout à l'heure, essayer de que le lecteur, à son tour, puisse ressentir la sidération et l'effroi qui avait été le mien. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver à la fois la temporalité et la forme romanesque qui permettent de lui tendre un miroir dans lequel il pourrait se projeter et peut-être se reconnaître. Et c'est effectivement pour cela que ça fait partie de la vivisection, que j'ai disséqué comme ça, à la fois les parties, à la fois le temps, et par ailleurs, comme un petit peu aussi dans une mise en abîme, l'effet de temporalité, il est peut-être redoublé, parce que la narratrice qui raconte l'histoire, à qui j'ai donné mon vrai nom, bah, sans pouvoir revenir pour quelle raison, mais elle raconte l'histoire, une histoire qui est passée, et donc elle la raconte, cette histoire est derrière elle, mais en même temps, elle la raconte comme si elle était en train de se dérouler précisément au présent. Et si j'ai choisi une alternance de passé quand elle raconte et de présent quand on vit les scènes, c'est précisément pour que ces scènes-là soient les plus vivaces possibles, en fait.
Alors, effectivement, il va y avoir ce premier rendez-vous, l'été se passe et les choses ne sont pas finies.
Non, on ne peut pas tout raconter, malgré les choses s'aggravent.
Voilà, les choses vont s'aggraver. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, ce grain de sable qu'on n'évoquera pas va modifier les relations familiales et la dynamique familiale. Donc, on l'évoquait, il y a un ado, il y a une petite fille de 7 ans, il y a le couple, et tout ça va être complètement secoué parce que le fait simplement qu'il y ait un œil observateur fait qu'on ne devient plus le même. À partir du moment où on est regardé, on ne se comporte pas de la même façon.
Tout à fait. Et ça m'intéressait parce qu'on a souvent pu dire, au fond, en faisant référence à 1984 de George Orwell, ou même en parlant tout simplement des caméras de surveillance dans les villes, ou alors à l'époque, et d'ailleurs je le cite, quand c'était la première fois Love Story, cette première émission de télé-réalité, on a souvent dit... C'est affreux, en fait, d'être filmé en permanence. Mais pour moi, l'enjeu littéraire, c'était d'essayer de rendre compte de cette monstruosité, en fait, de cette dépossession. Comment j'allais faire pour qu'on ressente ce que cela fait dans sa chair et dans son esprit que de vivre sous un œil en permanence. Et c'est vrai qu'on se retrouve absolument dépossédé de tout. On n'ose plus rire, on n'ose plus crier, on n'ose plus s'embrasser. Tandis que j'écrivais, je pensais au tableau de Hopper qu'on connaît, on en a toutes et tous vu quelques-uns. Et en fait, souvent, je pense que les auditeurs et les auditrices, ils auront ça en tête. Vous savez, c'est des personnages qui sont seuls, assis sur un sofa, assis sur un canapé ou près d'une fenêtre. Ils ont parfois la tête baissée, souvent le dos voûté. Et en fait, ces tableaux me venaient parce que je me disais, voilà en fait... de ce dont mes personnages sont privés, ils sont privés de ce relâchement du corps, ils sont privés de cet abandon d'un seul coup de la société qui ne vous regarde plus. Et si on parle, je pense, du foyer, si on ferme sa porte et qu'on est enfin chez soi comme un ouf, c'est parce que tout à coup, en posant son sac, on se délaisse de tout ce qui nous sert d'armure, de masque, de carapace pour être soi. Et il y a tout ça qui tombe. Mais si chez vous, quelqu'un vous surveille, alors vous ne pouvez jamais être vous-même. Et il y a quelque chose d'assez terrible et d'assez vertigineux qui me paraissait très intéressant d'interroger, à la fois du point de vue de la littérature, mais peut-être au-delà du coup du point de vue politique aussi.
Oui, oui, du point de vue politique. Et puis du point de vue de la perte de l'identité, de ce qui nous constitue aussi.
Tout à fait, puisque d'un seul coup, on n'arrive plus à être soi. Je dis qu'ils sont des vieux chiffons d'eux-mêmes, ils sont même une fiction d'eux-mêmes.
C'est des marionnettes,
fait.
Oui.
Voilà, et c'est vrai que, en fait, dans ce livre aussi, ce qui m'intéressait, c'était d'interroger ce qui m'intéressait aussi dans ce livre, c'était d'interroger la frontière entre la réalité et la fiction, qui est bien plus ténue qu'elle n'y paraît, surtout quand on écrit. Donc, j'ai fait référence tout à l'heure avec ce sentiment vertigineux pour moi d'avoir l'impression que la fiction percutait ma vie et la renversait. C'était intéressant pour moi, voilà, d'interroger la différence entre la fiction et la réalité, et que cette différence et cette frontière est bien plus ténue qu'on n'y paraît.
Oui, alors il y a un point qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point on est vidé de soi-même, parce que, comme vous l'évoquiez, donc on n'ose plus être soi à partir du moment où on est en observation et en accusation aussi, parce qu'il y a quand même cette dimension-là, du coup on se demande si ce qu'on fait, enfin, chaque acte de la vie est juste ou pas juste et comment il va être interprété. C'est le côté un peu parano qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir à quel point cette aventure va couper la famille du reste du monde. C'est l'incapacité à dire ce qui se passe et pour cause, et l'incapacité à partager. Parce que ça ferait du bien. Alors oui, il va y avoir une avocate qui va être au courant, mais elle ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, on est seul et le monde continue sa course sans nous.
Oui, tout à fait. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait les deux mondes, très justement, vous disiez les deux mondes opposés, le monde administratif et le monde de la famille. Et puis après, il y a la famille et le monde extérieur. Personne ne vit à la même vitesse. C'est vrai qu'avec ce roman, j'avais aussi à cœur d'essayer d'interroger la question de la honte, pas forcément la honte sociale, dont beaucoup ont pu parler, et puis c'est Annie Ernaux qui en parle le mieux de ce que c'est. Mais d'un seul coup, je me disais, qu'est-ce qu'il adviendrait au fond si cette honte, on la ressentait même dans l'intimité? Si d'un seul coup, alors même que normalement la honte sociale, on peut s'en remettre ou on peut souffler quand on rentre chez soi, si elle continuait à être là, et ça c'est vrai que c'est intéressant, et évidemment la honte, elle va de pair avec le secret. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas possible de parler.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule et des veaux, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutait la frousse. Beau, les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Il va y avoir cette, j'allais dire, c'est un ensemble de mécanismes de claustration. L'enfermement va se faire par couches successives. C'est un petit peu comme le corps étranger qui va blesser l'huître et autour duquel on va mettre les couches successives de nagues pour faire une perle. Sauf que là, à la fin, c'est quand même un roman. Mais pour la famille, c'est ce mécanisme-là. Il va y avoir ce corps étranger et puis tout va se cristalliser autour. Tout se fige à tel point que on a l'impression qu'à un moment donné, ça n'aura pas de fin. La situation s'étire et on ne voit pas comment, comme des mouches qui sont collées sur un papier, tu mouches, comment les protagonistes vont pouvoir se sortir de l'histoire.
Oui, c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver ce titre en garde. C'est toujours difficile de chercher un titre et en même temps, quand il m'a paru. Ah, quand d'un seul coup j'ai fini par le trouver, je me suis dit mais oui, je crois que c'est intéressant ce titre parce que tout le roman se trouve dans le titre au fond. C'est la polysémie qui m'intéressait. Mmh. Peut-être je reprends depuis le début, mais bien sûr en garde, c'est la posture de l'escrime à la fois pour l'offensive ou la défensive. C'est la garde des enfants qu'on ne veut pas perdre. C'est la garde que montre la sentinelle qui passe son temps à vous espionner. C'est peut-être, ça je l'avais oublié, mais la garde du couteau qu'au fond, on pourrait rêver de lui planter dans les yeux. Et puis, il y a aussi cette expression « n'avoir garde de ». Et c'est très exactement ce à quoi je pense lorsque vous entrez en fait dans ces détails. C'est tout à fait ça, « n'avoir garde de ». c'est s'abstenir soigneusement de faire quelque chose, et c'est ce à quoi au fond vous faites allusion. D'un seul coup, la famille, elle intériorise à tel point la surveillance que, en fait, elle est elle-même en auto-surveillance permanente, et on ne s'autorise plus à être soi.
Alors, le fait que Amélie Cordonnier soit le personnage du livre, ça aussi, c'est venu comment ?
Alors, ça, c'est venu à peu près tout de suite. Je ne peux pas vous dire que j'étais forcément à l'aise tout le temps de l'écriture avec ça. D'ailleurs, parfois, je me disais aussi qu'il y avait un peu comme côté narcissique à me mettre en scène. Mais ça m'est venu tout de suite et ça m'a paru nécessaire parce que, au fond, c'était une façon pour moi de bien mettre en avant le fait que ce roman, même s'il s'agissait d'un roman, il s'enracinait sur une histoire vraie. Ouais. Il s'enracinait sur le fait que j'avais été, pour de vrai, dénoncée par un appel anonyme et soupçonnée de maltraitance sur mes enfants. J'aurais très bien pu, appeler cette narratrice avec un autre nom. Mais alors là, ça passait complètement par la fiction. C'était renoncer à partir de cette chose qui me semble inconcevable et dont on a beaucoup parlé déjà, qu'aujourd'hui, on peut se faire dénoncer tout un chacun et se dénoncer les uns les autres, ce qui m'a paru absolument aberrant. Et puis après, c'était, comme je l'ai dit aussi déjà, une façon un petit peu d'interroger la frontière entre la fiction et la réalité, qui est bien plus ténue qu'il n'y paraît.
Lisez En garde d'Amélie Cordonnier. Comment se sont passés les retours de votre famille à la lecture du roman ?
D'abord, bien sûr, ils savaient que j'écrivais ce livre. On est toujours au courant dans une famille quand on a quelqu'un qui écrit. Je lis beaucoup et j'écris. Alors donc chez moi, on sait toujours est-ce que je lis, est-ce que j'écris. D'ailleurs, je m'en amuse un peu dans le livre. Ils disent toujours quand t'es pas en train de lire, t'es en train d'écrire. ils ont choisi leur prénom dans ce livre, tout un chacun. Mon mari et mes enfants, il n'était pas question, bien sûr, de leur donner leur vrai prénom. Et on ne peut pas forcer des enfants à lire le livre de leur mère, bien sûr. Je crois que mon fils m'a dit qu'il l'avait quand même, je crois qu'il ne l'a pas lu en entier, mais ça lui a fait un effet assez fou. Et comment vous dire, ce qui est assez dingue, c'est que par exemple ma mère, alors même que c'était une des rares avec mon éditrice à être dans la confidence de ce qui m'était arrivé, elle ne m'en voudra pas de le dire, parce que je sais qu'elle le dit encore à pas mal de personnes en ce moment, c'est qu'à un moment donné, elle a cru que tout ce que je racontais était vraiment vrai, que je lui avais vraiment caché et que c'était absolument vertigineux. Et donc, elle m'a téléphoné en me disant « Mais bien sûr, jure-moi que c'est vraiment un roman, t'as quand même inventé, tu ne l'as pas caché. » Donc, c'est là où je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose qui n'était pas trop raté dans ce roman, si même ma mère, qui était dans la confidence, avait peur que tout ce que je raconte soit vrai de vrai.
C'est un roman, ça s'appelle En garde, c'est d'Amélie Cordonnier, c'est paru chez Flammarion. Moi, je vous recommande de découvrir cet ouvrage, qu'on lâche pas, parce qu'effectivement, c'est palpitant comme un thriller. Merci en tout cas de nous l'avoir proposé et d'avoir répondu à ces questions. Et question rituelle dans cette émission, Amélie Cordonnier, il y a déjà un prochain livre qui vient à l'esprit, qui va faire l'objet d'écriture ?
Oui, j'ai déjà commencé. Donc, comme chaque fois, c'est toujours bien compliqué. C'est un peu les mains dans la glaise, pour ne pas dire la gadoue. On a toujours l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais je vais m'accrocher. Et je m'étais dit, ah, ça suffit, 4 livres. J'ai un ami qui m'a dit une tétralogie. C'est vrai que c'est beaucoup plus chic de dire une tétralogie. 4 livres qui se passent dans un appartement, même si c'est toujours ce qui se passe dans la maison chauffée qui m'intéresse. Je m'étais dit, je vais faire autre chose. Maintenant, ça suffit, les apparts, Amélie. Et puis, finalement, j'ai plus de regret de vous annoncer que le changement n'est pas énorme. Je vais passer d'un appartement à une maison.
Eh bien, suite au prochain épisode. Merci beaucoup, Amélie Cordonnier.
Un grand merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Voilà, c'est toujours Radio Libertaire, c'est toujours Idéaux et Débats, et c'était Amélie Cordonnier qui nous parlait d'En garde, son roman paru aux éditions Flammarion. Pour cette deuxième partie d'émission, nous allons retrouver maintenant Franck Courtès qui a écrit un très beau livre qui s'intitule « À pied d'œuvre » et qui est paru aux éditions Gallimard. Alors, on l'avait reçu pour un précédent ouvrage qui était un recueil de nouvelles. Et maintenant, donc, nous allons parler de ce roman. On le retrouve tout de suite sur 89.4.
Thank you.
C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz et avec le grand plaisir dans cette émission Idéo et Débat de retrouver en vrai cette fois Franck Courtès pour un nouveau livre qui est paru chez Gallimard à nouveau et qui s'intitule À pied d'œuvre. Alors on s'était retrouvé pour le précédent qui était un recueil de nouvelles que j'avais beaucoup aimé. Moi je vous avais découvert avec ce livre-là et là À pied d'œuvre c'est un roman et on retrouve l'écriture de Franck Courtès. Mais moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Alors, on va dire un mot, si vous voulez bien, Franck Courtès, en premier lieu, de ce titre, À pied d'œuvre, et de la polysémie de ce titre.
Bonjour à tous. À pied d'œuvre est en réalité le deuxième titre. J'avais un premier titre de travail qui s'appelait Main d'œuvre, et qui malheureusement a été pris par un recueil de poésie de Reverdy du début du 19e siècle. Et comme on a préféré changer, enfin on n'a pas eu le droit de l'utiliser pour être même très très franc, donc en catastrophe, avec les éditeurs, on a essayé de trouver un titre et il s'est avéré que celui-ci ressemblait au premier puisqu'il y a œuvre dedans et qui pouvait être pris aussi bien comme le travail, parce que c'est une vieille expression qui, je crois, alors c'est au féminin, c'est... le travail manuel et au masculin la littérature, quelque chose comme ça, ou peut-être que j'inverse. Bon, c'est normal, je me trompe toujours. Voilà, donc on a trouvé que le titre correspondait bien à ce qu'il y avait à l'intérieur.
Alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, Franck Courtès, donc on avait parlé de ce recueil de nouvelles qui était paru donc chez Gallimard, qui a eu un certain succès, il faut l'avouer. Et donc, vous êtes un auteur reconnu, Franck Courtès, mais la littérature ne nourrit pas son homme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de gens qui vivent du livre, mais ceux qui n'en vivent pas, ce sont les auteurs.
Oui. Comme les agriculteurs, un peu, en fait, finalement. Énormément.
Les libraires en vivent, les éditeurs en vivent, les distributeurs en vivent.
Alors, les libraires vivent chichement, quand même. Oui. Ça reste... quasiment tous les intervenants de la chaîne du livre sont quand même des gens qui sont passionnés et militants, hein, qui essaient de faire exister la littérature tout court. Donc il n'y a pas non plus un système d'exploitation. En revanche, il y a une anomalie, effectivement, c'est que le producteur ne touche pas de quoi vivre tant qu'il n'a pas vendu un certain nombre de livres. Et dans le contexte d'aujourd'hui, il est très difficile.
C'est quasiment impossible.
Oui, très difficile d'en vivre. Oui.
Alors, vous êtes retrouvé dans la situation où vous étiez, on l'avait déjà évoqué dans la précédente émission, où vous étiez auparavant photographe, avec un certain renom également, des revenus qui tombaient régulièrement sans que vous vous interrogiez vraiment sur le montant de ce qu'il y avait sur votre compte en banque. Et comme on vient de l'expliquer, quand vous avez décidé de laisser tomber la photo, et on évoquera peut-être les raisons d'ici quelques instants, le compte en banque n'était plus alimenté. Sauf que l'humain a besoin, lui, de s'alimenter.
Exactement. Surtout moi qui suis très gourmand. J'ai découvert, c'est-à-dire que je ne me suis pas du tout posé la question de l'argent, puisque j'avais un métier qui me permettait de ne pas trop penser à ces problèmes. J'étais très privilégié. Et puis, tout à coup, les revenus ont cessé d'arriver. Donc j'ai eu une très longue période. 7 ans, quasiment 6 ans sans revenu, pendant laquelle je me suis appauvri à un point assez extrême. Je n'ai pas du tout pensé à mériter des aides quelconques, puisque je pensais que c'était réservé à des gens qui avaient des accidents de vie. Je n'avais pas considéré, moi, mon retrait de la photographie comme un accident de vie, mais à la fois comme un choix et à la fois comme quelque chose de subi. C'est-à-dire que ça faisait quand même une dizaine d'années que j'en avais assez. Je le raconte dans la dernière photo, j'arrivais plus à trouver de plaisir. Et quand on ne trouve plus de plaisir en tant qu'artiste, on devient un simple exécutant. Et là, on se retrouve avec une concurrence terrible des jeunes, du numérique,
Oui.
Et je me suis fait tout doucement écarter aussi. Alors, j'ai un peu, comme je dis à un moment, masqué ma panade par le panache de dire que j'abandonnais. Mais dans un premier temps, c'est la photographie et le milieu de la photographie qui m'a abandonné parce que je n'étais plus à la hauteur. Il faut être lucide et modeste. Hein. Je voyais très bien que je baissais. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, que j'ai retrouvé tout ce plaisir des premières fois, en fait.
Mm-hmm. Parce que l'envie d'écrire, elle est présente depuis longtemps, en fait. Il faut le préciser pour nos auditeurs. C'est-à-dire que vous vous êtes exprimé par la photo, vous avez fait œuvre de création par la photo, mais vous aviez toujours hésité entre les deux.
Oui, j'écrivais quand j'étais enfant. Enfin, dès que j'ai su tenir un stylo, de toute façon, j'ai commencé à j'adore le geste d'écrire, j'adore ça, j'adore laisser une trace. Je recopiais des oui-oui. J'étais tout petit. Et très vite, j'ai commencé à écrire des petites histoires. J'étais vraiment tout petit. Alors, des histoires un peu naïves, mais drôles, hein, avec un gardien de square qui tombe dans la mare au canard, des choses comme ça, pour me venger. Et ensuite, quand j'ai commencé la photographie, qui m'était apparue quand j'avais à peu près 22, 23 ans, comme un métier extraordinaire, et ça l'est pour un jeune homme, parce qu'on voyage, on rencontre du monde, on fait des belles choses, c'est absolument génial. Et pendant tout ce temps, j'ai toujours tenu des carnets intimes où je légendais mes photos, et je prenais un grand plaisir à légender les photos. Et je pense que la genèse de mes livres vient de ces légendes qui pourtant, quand je les relis aujourd'hui, sont mauvaises, quoi. Elles ont un petit côté prétentieux, enfin tous les écueils quand on n'est pas écrivain, quoi, en fait, et qu'on part dans des trucs, on se prend très au sérieux. Mais la genèse des livres vient certainement, oui, des légendes de mes photos que j'adorais faire dans mon intimité, je m'en servais pas professionnellement.
Donc la photo, c'est fini, avec un peu d'amertume quand même. On sent qu'il y a eu quelques moments difficiles, le vol de photos, ce genre de choses, le fait de ne pas être payé. Les auditeurs qui vous liront pourront découvrir un petit peu cette aventure. Et puis, il y a l'envie de se retrouver donc à écrire pour de vrai. Mais comme on l'évoquait, d'un autre côté, financièrement, c'est compliqué.
Ah, c'est très compliqué. Et oui, de toute façon, la pauvreté, c'est très compliqué. C'est avant tout compliqué. Mais ça simplifie aussi beaucoup de choses. C'est qu'on voit autour de soi disparaître les coups de fil, les rendez-vous, les horaires de cinéma, on n'a plus à les regarder puisqu'on n'y va plus. Les bibliothèques, on n'y met plus les pieds parce que c'est trop tentant, on n'a pas l'argent pour acheter les livres. Voilà, il y a tout un pan de sa vie qui disparaît comme ça, complètement. Alors, Dieu merci, j'avais ce projet d'écrire qui me tenait en haleine, quoi, qui me gardait vivant, en fait.
C'est ça, oui, ouais. Oui, tout à fait.
Le soir, dans le cas orageux.
Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive à un certain âge de sa vie, qu'on n'a pas forcément d'état de diplôme, qu'on n'a rien fait d'autre, et je mets des guillemets, qu'être photographe, qu'on a envie de garder du temps pour la création de cette œuvre littéraire, et ben c'est très compliqué.
Oui.
On n'a plus l'âge des formations, on n'a plus l'âge d'être embauché à Décathlon, on n'a plus l'âge de tout ça, on n'a pas les compétences.
Vous êtes très délicate quand vous dites un certain âge. J'avais 50, je crois, 52 ou 3 ans, je ne sais plus. Enfin, donc c'est un âge entre deux. Quoi. On est pas, nous, on ne se sent absolument pas vieux. Quoi.
Moi, je cours encore. On ne sent jamais son âge.
Ouais, moi, je double des gamins à la course à pied, donc moi, je ne me sens pas vieux. Mais en fait, on l'est sur le marché du travail. On est un peu... on nous fait sentir qu'on n'est plus désiré. Et donc, j'ai cherché des travaux à mi-temps qui soient éloignés quand même de la photo parce que je l'avais quitté juste avant, je pense. Je pense que j'aurais fini par faire ce que font plein de gens, des burn-out. Quoi. Mmh. J'en pouvais plus. J'étais triste de l'évolution que ça prenait. J'avais tenu 10 ans. Et puis, les clients se sont aperçus que j'avais plus la motivation. J'avais beau essayer de faire encore. On voyait bien que je prenais plus qu'une photo parfois sur un portrait. Je veux dire, un clic. Tellement j'en pouvais plus de l'accueil qu'on me réservait, la rapidité qu'on me demandait. Puis, vous voulez être rapide ? Un clic. Bon, les gens se disaient, mais ils se moquent de qui ? Bon, évidemment, au bout d'un moment, on m'a viré de partout. Quoi. J'avais plus le choix de toute façon. Je pense que on avait continué de me payer même 3000 euros à faire des photos bon an, mal an, assez intéressantes quand même. J'aurais continué peut-être. Mais là, de toute façon, mes revenus étaient tombés tellement bas qu'il fallait valait mieux que j'arrête complètement et que je me consacre à ce que je venais de découvrir, la littérature, avec cette pauvreté qui arrive qui est l'ombre de la littérature, c'est la pauvreté, c'est terrible. Je parle avec des auteurs bien plus reconnus que moi. Vous avez la gentillesse d'employer ce mot à mon égard, mais je ne pense pas vraiment. Mais en tout cas, des auteurs plus reconnus que j'en crois sur des salons. Donc, tout le monde a des difficultés financières. S'ils n'avaient pas un deuxième métier ou un conjoint ou une conjointe, on découvre une pauvreté à laquelle, moi en plus, à laquelle je n'avais jamais été habitué. Parce que j'ai personne dans ma famille qui a vécu ça. j'ai beau avoir une conscience sociale, je m'intéresse évidemment, mais je réalisais pas à quel point ça conduisait à une forme de vie mesquine.
Oui, de vie mesquine et puis d'impossibilité à satisfaire les besoins vitaux les plus élémentaires, le fait de manger, le fait de se chauffer, pour la question du logement qui est réglée d'une manière un peu difficile aussi. Et c'est là que vous allez vous tourner vers tous ces petits boulots. Et c'est une dimension aussi intéressante du livre parce que en tant que homme à tout faire, vous vous trouvez donc plongé dans cette ubérisation du travail avec tout ce que ça sous-entend et qui fait que socialement c'est une véritable catastrophe. Le fait de mettre en compétition des individus qui sont tous auto-entrepreneurs, il n'y a plus de lutte sociale, il n'y a plus rien de possible et c'est à celui qui se vendra le moins cher possible. Et c'est dans cet univers-là que vous allez plonger. Et vous nous plongez donc dans À pied d'œuvre qui est paru chez Gallimard, Franck Courtès.
Oui, ça a été une découverte pour moi. Je pense que si j'avais voulu dénoncer quelque chose que je savais déjà en faisant un reportage comme un journaliste qui s'infiltre dans ces milieux-là, je pense qu'on n'aurait pas eu le même rendu de livre. Ça aurait été beaucoup plus un livre colérique de colère, alors que là, je passe mon temps finalement à me moquer de moi, mais j'ai pas le choix. Là, j'y suis allé vraiment pour gagner de quoi manger et continuer d'écrire. Je découvre une mécanique extrêmement bien rodée maintenant, qui est la dévalorisation par eux-mêmes des ouvriers qui se donnent aux enchères à des clients. Clients qui ignorent en fait le dessous de la table, hein, ou qui veulent pas le voir. Enfin, et donc on se retrouve à se dévaloriser, à baisser son salaire soi-même. Donc ça n'existe même pas dans le milieu de l'entreprise. Un patron qui dirait à partir de maintenant on va baisser les salaires, enfin c'est un brancard.
Puis de manière absolument, enfin c'est absolument incroyable. La valeur, ça pose toute la question, de toute façon éternelle question de la valeur des choses.
Oui.
Parce que quand vous en arrivez à faire des interventions pour 15 euros ou 8 euros, oui c'est ça,
c'est,
oui. C'est juste aberrant.
C'est parce que le système est fait de telle manière que pour pouvoir avoir, en fait, les gens qui ont créé ces plateformes de travail n'exploitent plus les travailleurs. Ils exploitent l'accès au travail. Et c'est en ça que c'est complètement pervers, parce que à partir de là, de toute façon, ils peuvent se montrer très chaleureux, très
appeler tout le monde par le prénom.
Appeler tout le monde par leur prénom.
Cette fausse convivialité.
Voilà, exactement. Tout sonne faux en fait,
oui,
là-dedans, parce que dans la réalité, pendant un an, pour que l'algorithme vous fasse remonter dans le choix qu'on vous propose les meilleures missions, c'est-à-dire les moins fatigantes et les mieux payées. Alors attention, les mieux payés, ça dépassera rarement 50 euros. Hein. Mais tout de même, pour accéder à ces missions et être sollicité le premier par l'algorithme, il faut en avoir fait beaucoup avant et avoir des étoiles, être bien noté. C'est tout un savant calcul. Et donc, pendant un an, on fait tout et n'importe quoi à des prix, enfin c'est presque de l'esclavagisme. Moi, je me suis retrouvé à tondre un jardin, je n'étais pas du tout équipé, mais je ne pouvais pas refuser. Parce que si je refusais, j'étais sanctionné par l'algorithme. Un peu comme les ouvriers d'antan qui arrivent en retard à la pointeuse, qui pointent un peu tard, il y a une prime qui saute ou des choses comme ça. Là, si on ne répond pas, immédiatement en plus, c'est-à-dire que le week-end, la nuit, n'importe quand, il n'y a plus de... si on ne répond pas, on est sanctionné par l'algorithme. Donc j'ai dit oui, le premier jardin qu'on m'a demandé à faire, je me suis dit, ça ne me fait pas peur, un jardin, je serai au moins dehors. Et ben non, j'avais une serpette que j'avais achetée dans une brocante, 2 euros, et que j'ai aiguisée comme j'ai pu, et un couteau à désherber, c'est un petit couteau quoi. Et je me suis retrouvé devant un jardin avec des arbres et une pelouse. Et là, oh mon Dieu, ça... Et j'avais demandé... Je crois qu'au départ, le tarif aurait pu être d'une centaine d'euros. Hein. C'est quand même un travail. On en était arrivé par le jeu des enchères avec les concurrents à ce que j'emporte le travail parce que j'avais baissé à 18 euros.
C'est juste.
Et voilà, je me suis retrouvé à quatre pattes dans le jardin à couper l'herbe à la serpette en prétextant que c'était plus écologiste, que ça faisait moins de bruit.
Oui, mais des exemples comme ça, effectivement, il y en a plein dans le livre, en Courtès. Mais alors, on voit aussi le côté autodérision et qui est extrêmement présent dans À pied d'œuvre et qui soulage, parce que sinon c'est effectivement extrêmement pesant. Pour revenir donc sur ces plateformes qui mettent à disposition de la main d'œuvre à bas coût, quand vous dites qu'ils sont détachés et que c'est juste une utilisation de la pauvreté, ça va plus loin parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation irrégulière, qui font ce type d'emploi, et ils vont aller jusqu'à imposer un tarif d'accès à la plateforme, c'est 100, vous évoquez 100 euros par mois.
C'est dans un deuxième temps.
Pour pouvoir accéder au travail, il faut payer.
Alors oui, ça c'est vraiment le gros problème, le gros souci, l'immoralité de la chose la plus totale. Tant que ça n'était qu'une mise en relation et qu'il prenait un pourcentage, on pouvait estimer que ça restait dans un cadre à peu près légal et que cette gigantesque récupération des déchets humains, parce que ils nous voient comme ça, hein, en fait, on est des exclus, des déchets du monde du travail, c'est-à-dire des cadres.
Prolétariat.
Ouais, c'est des cadres qui ont fait des burn-out, des artistes, des retraités qui n'ont pas assez avec leur retraite. Enfin, c'est terrible. Tant que ça restait dans un cadre à peu près comme ça, on arrivait à peu près à s'en sortir, mais il n'y avait pas la possibilité de faire de travail au noir. C'est-à-dire qu'il fallait en passer par la plateforme. Et ça, je trouvais ça plutôt correct moralement. Mais un jour, ils ont eu une idée merveilleuse. Ils nous ont contactés tous. Ils nous ont dit, bon, on va changer la formule parce que finalement, ça ne leur rapportait pas assez. Et ils se sont dit qu'ils pouvaient, maintenant qu'ils nous avaient accrochés avec ces petits boulots, parce que je rappelle que certains sont complètement dépendants de ces petits boulots, c'est leur métier à temps plein. Hein. J'ai vu en particulier des jeunes Africains qui n'ont pas de papier, enchaîner des chantiers les uns après les autres jusqu'à épuisement. Ils ont décidé de nous faire accéder à leur plateforme à condition de payer 100 euros. Et donc ces 100 euros. Qui nous permettent, avec cette nouvelle formule, d'obtenir les contacts directs des clients. Et ils nous ont expliqué verbalement, évidemment pas par écrit, que ça nous permettait de pas déclarer, puisque on pouvait faire du travail dissimulé grâce à ça. Eux, ils gagnaient leur pourcentage, quoi qu'il arrive, puisqu'on payait 100 euros. Et nous, on faisait du travail dissimulé, c'est-à-dire zéro sécurité sociale.
Pas de couverture.
Alors, c'est une horreur, quoi.
S'écroule.
Intéressant, par contre, que j'ai beaucoup aimé dans À pied d'œuvre, Franck Courtès, cet ouvrage paru chez Gallimard, c'est de voir tout le rapport à l'intime. Parce que vous êtes photographe, vous avez l'habitude de côtoyer les gens de près pour les prendre en photo, et là, vous allez les découvrir sous un autre aspect. Parce que le travailleur lambda qui vient démonter un meuble Ikea ou casser ceci ou tondre une pelouse, n'importe quoi, on le voit sans le voir. Et donc du coup, on lui donne à voir aussi beaucoup plus. Et moi, j'ai été très touchée par ce que vous écrivez, justement de la découverte de ces vies intérieures, de ces petites culottes qui traînent, de ces étudiantes avec leurs nounours. Je trouve ça très très beau, ce rapport à l'intime.
Oui, oui, si on passe le fait qu'on se sent presque plus homme. Je suis allé chez une cliente, ça fait bizarre de dire ça, mais c'était une cliente qui était en stage dans la maison de haute couture, tenue par une ex à moi. Quoi. Donc vous voyez, il y a un côté. Et donc je ne suis plus regardé comme un homme. J'ai touché de près cette invisibilité du travailleur manuel, en fait, du non-ouvrier, en fait, parce que l'ouvrier, c'est quand
même...
Il a une culture ouvrière, il y a un passé de lutte sociale.
C'est une identité en soi.
C'est une identité très respectable et relativement respectée quand même, parce que ce sont des gens qui ont des connaissances, des CAP, etc. Le manœuvre, comme j'ai fait et comme bien d'autres le font, on n'est vraiment rien du tout. Rien du tout, on est invisible et on découvre effectivement, moi j'ai touché de plus près l'intimité des gens, qui était une chose que j'aimais beaucoup en photo quand j'allais chez les gens faire des univers pour les magazines littéraires par exemple, ou simplement des portraits chez des footballeurs ou des ministres. J'adorais ce côté, je vois enfin à l'intérieur de quelqu'un. Mais en réalité, je me suis rendu compte en faisant les bricolages que du temps où j'étais photographe, on rangeait avant que j'arrive, en fait. Hein. Les femmes se maquillaient, les hommes étaient en chaussures, alors que là, j'arrive et il y avait des gens assez riches, aisés, évidemment, qui sont nu-pieds. Enfin, c'est vraiment... Il y a des rognures d'ongles sur le bord de la salle de bain. Alors, je suis obligé de les enlever pour pouvoir accéder au nettoyage des vitres. Donc, je me retrouve dans une... Et surtout, ces petits doudous là, ces nounours, les petits lapinous qui dépassent des oreillers des étudiantes qui sont montées à Paris pour étudier, qui sont pas encore complètement installées, pas très à l'aise, elles ont bonne mine, elles sont pas encore touchées par la vie parisienne et étudiante, Et ça, ça me touchait énormément. Et puis l'intimité, la non-pudeur, en déplaçant un lit pour monter une armoire, on tombe sur des préservatifs usagés, la jeune femme arrive, les enlève sans aucune gêne. Moi, j'aimais bien. Alors, pour être très honnête, je trouvais ça... j'avais l'impression de découvrir quelque chose de la vie que je n'avais pas découvert avant, que je n'avais jamais vu. Donc c'était riche. Je ne pensais pas écrire encore. Donc simplement, moi, personnellement, je trouvais ça intéressant.
Oui, y a, dans les découvertes, il y a cette approche de l'intimité. Et puis, il y a un autre point aussi qui m'a intéressée, c'est la découverte de l'argent. De l'argent, vraiment, de l'argent qu'on gagne, qu'on a, et de savoir ce que ça représente en matière de courses au supermarché d'à côté. Le fait d'avoir de l'argent liquide, c'est toute la différence avec avant, où l'argent était totalement virtuel.
Oui, oui, oui. Le premier billet de 20 euros, d'ailleurs, je me demande si c'est pas le jardin, d'ailleurs, parce que la cliente m'a laissé 2 euros de pourboire. Alors oui, en plus, les pourboires, c'est extraordinaire. Moi, j'en ai laissé sans vraiment compter à des serveurs dans les cafés. Quand je me suis retrouvé moi-même serveur, parce que j'ai eu aussi cet épisode-là, l'importance des pièces, la beauté des pièces de monnaie laissées sur une table, c'est magnifique, quoi. Et un billet de banque qu'on a à soi gagné, il y a un sentiment de liberté, de dépense, de trésor que j'ai jamais eu avec les sommes astronomiques qu'on me versait sur mon compte en banque sans que je sache à quel jour, enfin à quelle heure. Je ne savais pas trop. Moi, je ne faisais pas attention. Le rapport à l'argent change.
Ça a un côté très enfantin, c'est comme la tirelire.
Ouais.
C'est vraiment ça.
Oui, oui. L'argent prend tout son sens quand on n'en a plus, en fait. Voilà. Mais un sens presque magique, hein. Ça devient. Enfin, c'est... Pour 2 euros, je multiplie les attentions, je me déchausse chez les clients, tout ça pour gagner le pourboire. Toute cette petite économie. Et cette joie, hein, il m'arrivait de rentrer chez moi avec une joie mais vraiment insensée parce qu'on m'avait laissé 3 euros. Quoi. Alors que bon, je sais très bien raisonnablement que dans un magasin, ça, je vais acheter quoi ? Une boîte de sardines, 2 boîtes de sardines peut-être, mais eh ben non, c'était vraiment très très précieux. Et ça m'a fait réaliser cette histoire d'argent. Maintenant, je regarde tout ça avec un œil très différent. Enfin, je dis tout ça, c'est-à-dire les gens qui n'en ont pas, tout simplement.
Boîte de sardines, ça m'amène à ce que ça peut entraîner aussi au niveau du corps et cette aventure, parce que un médecin vous dit qu'il faut manger des sardines, des œufs durs, des pois chiches,
du pain
pour ne pas perdre trop de poids, parce que bien sûr ce type de privation permanente entraîne une perte de poids. Mais globalement, ce qu'on voit aussi dans À pied d'œuf, Franck Courtès, donc livre paru chez Gallimard, c'est comment ce travail de ces petits boulots, entre guillemets, parce que c'est toujours pareil, on parle par euphémisme, peuvent entraîner une usure du corps et comment le corps peut se casser et de manière sérieuse et sévère.
Oui, 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 je pense que... Je comprends pas comment les gens peuvent continuer à faire des travaux de force passer 60 ans. Quoi. C'est terrible, ça abîme. Moi, je me suis. Alors, moi, c'est différent, c'est que j'ai cru que j'étais fort parce que je faisais beaucoup de sport depuis tout jeune, judo, course à pied. J'adore ça. Donc, je me trouvais suffisamment fort pour affronter n'importe quel boulot. Aller retourner des dizaines de sacs de ciment pour faire un béton à la pelle, on en reparle, quoi. Le sportif ne vaut plus rien. Non, il faut un corps fait pour ça, et je pense pas que raisonnablement on puisse durer très longtemps avec ce genre d'effort.
Non, parce que ça va au-delà des capacités physiques, de toute façon.
Mais bon, là où je me suis blessé beaucoup trop vite par rapport à un ouvrier qualifié, je précise qu'Olivier, parce que le mot ouvrier pris tout seul, parfois on pourrait penser à un truc péjoratif, mais tous les ouvriers sont qualifiés en réalité. Mais un ouvrier, fais attention, ne se blesse pas autant. J'ai des amis ouvriers depuis qu'ils sont tout petits, enfin depuis qu'ils ont 14 ans quand ils sont partis en maçonnerie. Bon, ils ont des problèmes de dos, ils ont des problèmes de ceci, mais C'est le temps qui les a usés, mais ils ont réussi à tenir très longtemps sans se blesser. Moi, je me suis grillé en 4 ans, quoi. 4 ans, c'était mort, quoi. J'avais des tendinites dans les deux genoux, que j'ai toujours dans l'un, d'ailleurs. Hein.
Les épaules,
des douleurs intercostales, parce que je me déchirais les muscles du... Parce qu'en fait, tout casse. Hein,
tout casse et on ne s'arrête pas, parce qu'il faut continuer.
Il faut continuer, bien sûr. Bien sûr. Puis bon, j'ai un esprit aussi où, de toute façon, je ne renonce pas. Quand je suis sur une mission, je vais jusqu'au bout. Je ne repars pas sans avoir réparé ce qui ne va pas, ou descendu tous les gravats du 7e ou 6e étage à la main. Ça, j'ai une espèce d'inconscience aussi du danger. Et je me suis vraiment... abîmer le corps, oui, c'est vrai. Là, je suis en période de soins. J'ai encore des soins chez le kiné. My kiné is very rich. Il me voit depuis des années. Alors, j'ai fini par lui dire, parce que je savais que de toute façon le livre allait sortir. Donc, je ne pouvais plus cacher très longtemps ce que je faisais, mais je l'ai caché très longtemps à mes amis, à ma famille. Je le disais un peu, mais personne ne comprenait vraiment. Et ça m'allait très bien, hein. J'ai organisé cette ignorance. Hein. Mmh. Je ne voulais pas que les gens changent à mon égard. Et pour redonner le change, j'ai gardé quelques habits d'avant, plutôt chic. J'ai vendu tout le reste, mais les habits, je tenais absolument avoir une image de moi qui permette encore d'avoir les mêmes amis, de pas passer pour le pauvre. Je n'avais pas envie.
Pas faire pitié.
Ouais, ni faire pitié, ni provoquer le mépris aussi. J'avais peur de ça. Enfin, je voulais pas que quand je regardais des vitrines avec des victuailles, je voulais pas que ça ajoute à cette frustration, cette image de moi en guenille, quoi. Je voulais vraiment encore avoir l'impression de porter beau, quoi. Mais voilà, c'était du cinéma. Hein.
Thank you.
vous avez utilisé un mot qui est important, Franck Courtès, qui est le mot « famille mm-hmm. ». Parce que la question de la famille est présente dans « À pied d'œuvre », parce que la pauvreté a des conséquences familiales importantes. Parce qu'il y a une photo dans ce livre qui était déjà dans le recueil des nouvelles, qui est la photo d'un petit garçon et de la confiance qu'il a oui. en son père. Oui. Et elle est importante, cette photo.
Ben oui, vous êtes sur vous, vous voulez parler de ça.
Bon, on va laisser les auditeurs découvrir.
Je suis désolé, c'est encore un peu trop frais, je n'ai pas de recul. Mais oui, c'est une photo de mon fils qui est légendé. J'affirme que je serai toute ma vie à son côté pour le protéger. Et la littérature m'a éloigné de... Bien sûr, bon, alors ils sont partis à l'étranger, évidemment, donc j'avais plus moyen de les rejoindre en vacances ou des choses comme ça.
Matériellement.
Matériellement, je ne pouvais plus, et ça a été une douleur terrible. Ben, la preuve, vraiment, là, ça y est, en parlant, ça y est, l'émotion passe. Mais quand on me fait penser à cette histoire, oui, je suis encore très bouleversé. Ouais.
Mais le point positif, c'est que les livres existent et qu'ils peuvent être lus.
Oui, oui, oui. Je me dis que bon, je leur lègue au moins ça, des livres, en espérant qu'ils apprécient.
Ça s'appelle À pied d'œuvre, c'est de Franck Courtès. Ça paraît chez Gallimard. La parution de ce livre, comment ça modifie la donne?
Alors la donne, elle a plein de niveaux, plein de plans. Sur le plan matériel, pour l'instant, ça ne change rien.
Oui.
Parce que voilà, j'ai pas les chiffres, je ne sais pas du tout ce que ça va devenir. En revanche, c'est une immense récompense. Depuis le moment où j'ai rendu le texte chez mon éditeur, Maison Gallimard, mes deux éditrices, Karina Ossin et Charlotte Van Essen, ont été... Mon couvert de compliments, et ça a été la récompense de ces années de labeur. Et puis depuis, oui, je reçois des messages de sympathie, qui m'encouragent en fait, qui me récompensent et qui m'encouragent. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est énorme pour un auteur d'être encouragé, parce qu'on est tellement, enfin c'est un cliché de le dire, mais on est tellement seul dans son travail, sans aucune garantie d'être publié. On se demande, il y a certains jours, on se demande si on ne va pas arrêter, devoir faire autre chose. Surtout qu'il y a une pression de la famille aussi qui dit, bon, peut-être arrêter les bêtises.
Faire un travail sérieux.
Voilà. Donc s'accrocher comme ça à un espoir, il faut avoir quand même alors c'est pas de l'ordre de la certitude d'être talentueux, d'être bon, c'est pas ça, hein. C'est vraiment s'accrocher à ce plaisir qui emporte tout, cette joie, ce sens que ça donne à la vie, l'écriture, mais comme je pense tout métier qui est fait par passion donne un sens. Mais c'est vrai que la littérature, ce qu'il y a d'extraordinaire, un peu comme la photo d'ailleurs, hein, c'est que tout peut remplir la besace de l'auteur. La moindre petite scénette dans la rue, on n'a plus un moment d'ennui, quoi. Ça, ça n'a pas de prix.
Donc il y aura un prochain livre?
Bien sûr. Alors, bien sûr, non. Je m'avance. Il y a un prochain projet.
D'accord.
Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que ça débouchera sur un livre? Voilà, on n'est jamais sûr. Hein. Peut-être que la grâce m'aura quitté, la chance m'aura quitté, je ne sais pas. Peut-être que je raterai. Mais pour le moment, je suis à la fois hyper heureux de cette promotion, de ce qui se passe autour de À pied d'œuvre, mais secrètement, j'ai très très hâte de me remettre au travail. Hein.
Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour un prochain livre.
Ben, aussi.
On va se donner rendez-vous, on va y croire. Merci beaucoup, Franck Courtès.
Merci beaucoup à vous.
À pied d'œuvre, c'est paru chez Gallimard. Merci.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On y a parlé de deux livres que je vous recommande. En garde d'Amélie Cordonnier, paru chez Flammarion. À pied d'œuvre de Franck Courtès, paru aux éditions Gallimard. Nous, on se retrouve dans deux semaines avec plein de choses à venir dans les émissions prochaines. On retrouvera Lilia Hassen pour Panorama. On retrouvera Stéphanie Hochet pour William, un livre sur Shakespeare. On retrouvera la chronique de Gérard Guégan. On retrouvera Mathieu Simonet pour La fin des nuages. Enfin, un très très beau programme à venir. Mais d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, 89,4 MHz et portez-vous bien.
Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous servent.